Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h à Pougny-Risson, 14h en temps universel. Jean-Baptiste Marot pour le journal. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Le mandat d'arrêt de la France contre Bachar el-Assad, accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières en août 2013 en Syrie, est valide. Ainsi en a décidé tout à l'heure la Cour d'appel de Paris. Nous serons en ligne avec Laura Martel qui est sur place dans un instant. À la une également le Kenya où le président William Ruto annonce à l'instant le retrait de son projet de budget pour 2024-2025. En l'occurrence, le texte à l'origine des grandes manifestations qui se sont terminés dans un bain de sang hier à Nairobi. La répression a fait au moins 22 ou 23 morts. On va y revenir. À suivre également dans cette édition l'ouverture du procès du journaliste américain Evan Gershkovitch en Russie. Le retour du lanceur d'alerte Julian Assange en Australie. Et puis en France, on fera le point sur cette nouvelle journée de campagne à 4 jours du premier tour des législatives anticipées. Elle est notamment marquée par la crise qui se poursuit chez les Républicains. En France, la Cour d'appel de Paris a donc validé en début d'après-midi un mandat d'arrêt tricolore contre le président syrien Bachar el-Assad, accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Les faits remontent après de 10 ans des attaques chimiques meurtrières imputées au régime syrien en août 2013 à Adra et à Douma, à côté de Damas, ainsi que dans la Ghouta orientale. Laura Martel, vous êtes sur place, je le disais, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Laura, à la suite duquel les parties civiles saluent une décision historique, je les cite.
Oui, historique, car c'est la première fois qu'une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice n'est pas absolue, soulignent les avocates des victimes et ONG françaises et syriennes, parties civiles, dans ce dossier. Alors, rappelons de quoi il est question. En fait, depuis 2021, des juges du pôle Crimes contre l'humanité de Paris enquêtent sur la chaîne de commandement syrienne qui a mené, vous le disiez, à ces attaques chimiques contre des civils en 2013, dont celle du 21 août au gaz sarin dans la Ghouta orientale qui a tué plus de 1000 personnes. En novembre dernier, première décision historique, les juges délivrent un mandat d'arrêt contre 4 hauts dignitaires, dont Bachar el-Assad lui-même. Mais le parquet dépose ensuite une requête en annulation contre ce mandat qui vise le président syrien. Il estime en effet que jusqu'à présent, les exceptions à l'immunité personnelle des chefs d'État en exercice sont réservées aux juridictions internationales, comme la Cour pénale internationale, par exemple. Le parquet demande donc à voir cette question tranchée par une juridiction supérieure. C'est chose faite donc aujourd'hui, puisque la Cour d'appel a validé ce mandat d'arrêt. Alors, on ne sait pas encore sur quel argument s'est basée la Cour, mais cette décision inédite ouvre la voie à la tenue d'un procès en France contre Bachar el-Assad dans ce dossier, qu'il soit arrêté grâce à ce mandat d'arrêt ou non, même si le parquet peut encore se pourvoir en cassation.
Laura Martel, en direct sur RFI. Justice encore avec la CPI qui vient, elle, de reconnaître coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité l'ancien chef de la police islamique de Tombouctou, à l'époque où la cité malienne était contrôlée par les djihadistes d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était entre avril 2012 et janvier 2013. Alassane, un malien de 46 ans, se voit notamment reprocher d'avoir supervisé des amputations et des flagellations parfois publiques et d'avoir mené aussi des interrogatoires avec recours à la torture pour obtenir des aveux. Sa peine sera connue ultérieurement. L'actualité africaine de ce mercredi, c'est aussi le Kenya où le bilan de la répression des manifestations contre la loi de finances 2024-2025 hier s'alourdit. Il s'élève désormais à 22 ou 23 morts. Les chiffres diffèrent selon les organisations de défense des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que la mobilisation qui a vu des dizaines de milliers de personnes descendre dans la rue partout dans le pays a été réprimée dans le sang. Résultat, aujourd'hui, la Commission kényane des droits de l'homme demande des comptes. Je vous propose d'écouter tout de suite son directeur, Davis Malombe.
Les événements d'aujourd'hui nous rappellent terriblement des jours bien sombres que le Kenya a déjà connus. Et nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation. Aujourd'hui, notre président William Ruto est de nouveau candidat à des poursuites devant la Cour pénale internationale à cause des crimes contre l'humanité qui ont eu lieu hier dans notre pays. Monsieur Ruto a fait exécuter un massacre contre les manifestants pacifiques. La police a tiré sur des jeunes manifestants à l'extérieur du Parlement et les tueries se sont poursuivies durant la nuit. Des rapports nous informent que la police a tué des douzaines de personnes à Githurai entre 22h et 1h du matin, bien après que les manifestations aient été terminées. La responsabilité politique de ces événements revient à M. Ruto, même s'il n'était pas présent dans les rues. Il ne peut pas échapper à ses responsabilités.
Un propos recueilli par la correspondante de RFI au Kenya, Gaëlle Lalex, et je vous le disais en titre, le président kényan vient à l'instant d'annoncer dans un discours le retrait de ce texte qui a mis le feu aux poudres, en l'occurrence le projet de budget 2024-2025 qui prévoyait de nombreuses hausses de taxes. On y reviendra évidemment longuement dans Afrique Soir, notamment tout à l'heure. Le journalisme n'est pas un crime. Evan Gershkovitch est victime d'accusations montées de toutes pièces quelques heures après l'ouverture ce matin du procès du journaliste américain arrêté pour espionnage en Russie en mars 2023. Sa famille et son employeur, le Wall Street Journal, montent à nouveau au créneau pour le défendre, réclamer son innocence. Il s'exprime alors que la procédure devant le tribunal de Yekaterinbourg dans l'Oural se déroule à huis clos. Les proches d'Evan Gershkovitch soupçonnent également la Russie de l'avoir interpellé en vue de s'en servir comme d'une monnaie d'échange, en vue de récupérer des Russes incarcérés en Occident. La diplomatie russe a d'ailleurs déclaré tout à l'heure que Washington devrait, je cite, « sérieusement étudier les signaux envoyés par Moscou en ce sens ». Il est rentré en homme libre dans son pays après un accord passé avec la justice américaine qui a permis de clore une saga judiciaire de près de 14 ans. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a atterri en Australie tout à l'heure, juste après une audience devant un tribunal fédéral américain des îles Mariannes, tribunal qui a entériné le compromis trouvé entre les deux parties au cours d'une conférence de presse donnée à Canberra peu de temps après son arrivée. La femme de Julian Assange a expliqué que celui-ci avait désormais besoin de temps pour récupérer après plus de 5 ans passés dans une prison de haute sécurité à Londres. En France, à 4 jours du premier tour des législatives anticipées, la campagne se poursuit. Elle est notamment marquée aujourd'hui par un nouveau coup de théâtre chez les Républicains. Alors que le ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement National fait toujours dangereusement tanguer le navire, le parti a connu ce matin une nouvelle secousse, en l'occurrence le départ du député sortant et candidat à sa réélection dans le Lot, Aurélien Pradier. Raphaël Delvolvé.
Il considère son parti comme mort, plus en capacité de parler aux Français. Si Aurélien Pradier lâche pour de bon LR, ça n'est pas pour rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron dans la future Assemblée nationale. Il dit vouloir devenir un député à l'origine de quelque chose de nouveau. Il embarque d'ailleurs avec lui 30 candidats pourtant investis par les Républicains. Il assure qu'ils concourront dimanche sous les couleurs de son micro-parti Du Courage. Le départ d'Aurélien Pradier ne surprendra pas tout le monde. Il a toujours été une voix dissonante chez LR. Il s'était notamment opposé à la réforme des retraites l'an dernier contre l'avis de son groupe. Ça lui avait d'ailleurs coûté sa place de numéro 2 du parti. La plus grande surprise de cette annonce réside surtout dans le timing. Nous sommes maintenant à 4 jours du premier tour et dans une période très compliquée pour LR après l'alliance scellée par Éric Ciotti avec le Rassemblement National. Un psychodrame politico-juridique dont on ne voit pas le bout. Cet après-midi, les adversaires du toujours président du parti tentent pour la 3e fois de le destituer.
Les sports avec d'abord l'Euro de foot en Allemagne où la France connaîtra tout à l'heure son adversaire pour les 8e de finale. Finalement 2e du groupe D après leur piètre performance face à la Pologne hier. Les Bleus seront opposés au 2e du groupe E, autrement dit soit à l'Ukraine, soit à la Belgique, soit à la Slovaquie, soit à la Roumanie. Pour le savoir, il faut attendre le résultat des 2 dernières confrontations dans cette poule. Elles sont prévues à partir de 16h, temps universel. Et puis en basket, la fameuse draft de la NBA aura lieu la nuit prochaine. La draft, vous le savez peut-être, c'est ce cérémonial au cours duquel les jeunes talents intègrent la prestigieuse Ligue nord-américaine. Pour cela, il faut qu'ils soient choisis par l'une des 30 équipes. Alors qui pour succéder cette année à Victor Wembanyama, devenu l'an dernier le premier Français sélectionné en première position, un joueur tricolore, peut-il rééditer l'exploit? On voit ça tout de suite avec Victor Misistrano.
Difficile de passer après un Victor Wembanyama au centre de toutes les folies il y a un an. La QV 2024 s'annonce pourtant exceptionnelle, comme nous l'explique Sami Sadik, spécialiste basket au journal L'Équipe.
Normalement, on verra un des Français être appelé numéro 1, voire peut-être 1 et 2, ce qui serait historique pour un autre pays que les États-Unis.
Zachary Rizaché et Alexandre Sarr sont attendus tout en haut. Les dernières prédictions placent aussi Tidjane Salin dans le top 10. Alors comment expliquer une telle convoitise autour des joueurs français ?
Les équipes NBA sont sensibles au fait que les jeunes Français qui se présentent à la draft ont joué dans un environnement professionnel quand ils viennent par exemple du championnat de France. Ils sont sensibles aussi à la réussite un peu de la formation française. On a une génération qui est un petit peu exceptionnelle. L'été dernier par exemple, toutes les équipes de jeunes masculines et féminines sont arrivées dans le dernier carré de leurs compétitions respectives.
Être drafté tout en haut, c'est toucher le gros lot, un salaire de 10 millions de dollars pour la seule première année de contrat.
Sélectionner un joueur avec le choix numéro 1, le choix numéro 2, c'est un gros investissement pour une franchise NBA, c'est une marque de confiance. Donc le joueur qui est sélectionné à ce rang-là va nécessairement avoir la chance de briller en NBA. On va lui donner sa chance.
Mais tout cela n'est pas une fin en soi. Il y a 10 ans, le Serbe Nikola Jokic était drafté en 41e position. Il est désormais considéré comme le meilleur joueur du monde.
Et c'est la fin de ce journal 16h10. Dans quelques secondes à Paris, tout de suite, vous retrouvez le club de C'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras.